Alors voilà, donc je suis maintenant accompagné de Karina Marceau, donc journaliste, documentariste, animatrice, plein de choses. bonjour, attendez un petit peu, j'ai oublié d'ouvrir son micro. Alors bonjour Madame Marceau, ça va bien?
Bonjour Monsieur Trudel.
Alors je trouvais ça bien intéressant. En tout cas, j'ai pas eu le temps de l'écouter totalement au complet. C'est quand même
trois heures
d'écoute. Et puis élever mon garçon. Donc c'est une démarche très personnelle. Est-ce que c'est la première que vous faites aussi personnelle dans votre carrière?
Oui, pour avoir donc des entrevues à la fois avec mon petit garçon qui a 4 ans, avec mon amoureux, avec mon frère. Oui, c'est la première fois que je vais dans le aussi personnel et que je donne la parole à des gens aussi près de moi. Je pense que la radio m'a aidée à faire à aller aussi dans l'intimité parce que la télé, ce que je fais habituellement, j'aurais peut-être ressenti un certain malaise. Alors, ce qui m'amène vraiment à être encore plus émettre de la gratitude par rapport à ceux et celles qui osent faire des témoignages à la télé, nous faire entrer dans leur vie, parce que c'est quand même un engagement. Ouais. Mais donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, la radio. Quel beau médium, un petit magnéto gros comme un téléphone, et puis on capte le son, on capte l'essence des gens.
C'est un autre univers, hein, effectivement. Puis moi, personnellement, je l'ai écouté en fin de semaine, puis ce qui est agréable aussi avec de l'audio, c'est que tu peux faire autre chose. Moi, je faisais ma vaisselle, je faisais mon ménage, fait que ça me permettait quand même d'être actif, de ne pas être assis devant un reportage, des fois qu'on se permet de moins en moins, je dirais.
En voiture aussi, c'est extraordinaire, ça permet d'être accompagné, de se faire raconter des histoires. Donc, un beau projet, je suis ravie du résultat. Je ne pensais pas que ça allait être un sujet qui allait être aussi délicat. J'ai l'habitude de traiter des enjeux quand même assez douloureux. Bon, j'ai fait des films sur les meurtres intrafamiliaux, j'ai fait des films sur les couples qui se séparent avec beaucoup de hargne. Donc, des sujets qui sont très, très difficiles. Alors là, je pensais que ça allait être quand même assez bon enfant, c'est-à-dire la quête d'une maman, d'un petit garçon de 4 ans, 4 ans et demi, qui se demande comment je fais pour élever mon garçon pour qu'il soit un être épanoui, un être heureux, un être qui atteindra son plein potentiel, qui saura se respecter lui et respecter les autres, notamment les femmes. J'avais plusieurs questions qui me venaient en tête quand je regardais certaines statistiques, que ce soit sur le décrochage scolaire, mais je dirais que la goutte qui a fait déborder le vase, mais enfin, le moteur principal, ça a été toute la crise du MeToo et me dire, OK, moi, je suis la maman d'un petit garçon et je veux que mon garçon, plus tard, soit un être respectueux pour tous, mais notamment les femmes. Et donc, je pensais que ça allait être assez bon enfant, mais finalement, quand on touche à des enjeux spécifiquement masculins, qu'on questionne la biologie versus la sociologie, il y a beaucoup de polarisation et c'est des sujets qui viennent chercher profondément.
Ben oui. Et puis toi, peut-être nous dire un peu ce que... Donc, tu es allé voir différents types de personnes, autant des scientifiques que des hommes, monsieur, madame, tout le monde, des jeunes même, j'entendais qu'il y a des jeunes, des éducatrices, des éducateurs, justement, qui sont peu nombreux, malheureusement, dans le domaine scolaire et autres.
J'ai divisé la série en 3 temps. D'abord, la petite enfance, où on se questionne, c'est quoi un garçon? Est-ce que l'on est, est-ce que l'on est garçon ou on le devient, pour paraphraser une certaine... écrivaine célèbre. Donc, on pose la question de la biologie, de la socialisation. Et là, je suis allée dans différentes zones, autant chez les éducateurs en garderie au CPE de mon fils, autant justement des chercheurs qui ont fait des études à ce sujet-là, des gens qui œuvrent en neurosciences. Donc, c'est à la fois très ancré sur le terrain, avec des hommes et des femmes qui travaillent auprès des garçons, et autant scientifiques. Deuxième épisode, c'est un petit peu plus vieux, c'est l'enfant qui commence justement à être davantage dans la socialisation, donc la petite enfance. Et troisième, c'est le garçon plus vieux, l'adolescence, le début de l'âge adulte. Et là, j'ai donné la parole à des jeunes parce que quand on a 14, 15, 16, 17 ans, on est capable de s'exprimer et d'émettre un point de vue. J'avais envie d'entendre les garçons sur c'est quoi être un garçon en 2019. Et il est ressorti toutes sortes de choses bien intéressantes. Des fois, on pense qu'on est rendu à un certain endroit, mais finalement, on constate que c'est pas tout à fait le cas, notamment pour l'orientation sexuelle. C'est encore difficile pour les garçons de faire, et probablement les filles, c'est encore difficile de faire un coming out, comme on dit en bon français, sur son orientation sexuelle quand on est bisexuel ou homosexuel et LGBT++. Alors qu'on je croyais qu'on était rendu ailleurs, mais il y a des garçons qui nous disent on est encore pris dans des modèles où c'est l'homme, je l'appelle l'homme Marlboro, même si les médias, fort heureusement, proposent différents modèles de garçons, de Hubert Lenoir à l'homme Marlboro, justement. Il y a encore un modèle
qui est... très ancré, hein, puis... Là, tu parles justement, ça t'a remis face à des croyances que toi, tu avais personnellement, mais justement, est-ce que par rapport à élever ton garçon, est-ce que ça t'a remis en question un petit peu par rapport à la façon d'élever ton garçon après avoir fait ce reportage?
Non, je pense que quand même, j'étais dans la bonne voie, puis je pense que la bonne voie, c'est justement de se poser les questions. Mais bon, j'ai appris un tas de choses que moi, j'ignorais. On est souvent dans les clichés, les femmes parlent plus, les garçons parlent moins, mais bon, quand on apprend que biologiquement, Joël Mauzé, qui est un docteur en neurosciences, moi, j'ai adoré l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. En fait, ce qu'il nous dit, c'est on remarque que les stimuli chez le petit garçon et la petite fille empruntent à peu près, là, je paraphrase, là, alors s'il y a des scientifiques qui nous écoutent, je vous invite à écouter la série parce que je dirais peut-être pas ça parfaitement, mais en somme, j'y vais avec la généralité. Les stimuli parcourent à peu près le même parcours chez le garçon et la petite fille, sauf à la toute fin. Chez la petite fille, c'est le moteur du langage qui va s'activer, alors que chez le garçon, c'est davantage le corps. Alors ça, je trouve ça intéressant d'avoir cette perspective-là pour comprendre davantage les comportements.
Justement, le fait de chamailler entre gars, puis même le père avec le fils, souvent, il y a cette... Je ne sais pas pourquoi, il y a comme cet élan-là de faire ce genre de démarche-là avec le fils.
Mais c'est ce que mon chum me disait, parce que je le vois, il se bagarre à tous les jours après le repas avec les deux gars. Puis ça fait partie d'une façon de se dire on s'aime, on se touche, on rigole, on se colle. Et ça peut paraître très cliché. Je sais que certains et certaines n'aiment pas qu'on aille dans ces eaux-là. D'ailleurs, la question de la chamaille dans les CPE, ça soulève beaucoup de questionnements et parfois de malaise.
Parce qu'il y a une démarche, comme tu disais en entrée de jeu, de vouloir être dans une certaine égalité homme-femme. Mais il y a des choses qu'on peut pas changer. Qui, comme certains scientifiques t'ont dit, il y a les hormones, il y a le cerveau même qui est un petit peu différent, qui a pas la même, il y a pas les mêmes façons d'amener, d'approcher les choses. Donc, c'est quasiment impossible de dire on peut pas égaliser nécessairement. C'est difficile de faire en sorte que tout soit égal, autrement dit.
Bien, tout égal, mais peut-être pas semblable. Ouais. La socialisation prend de plus en plus place, plus que l'enfant vieillit. Au départ, la biologie a plus d'incidence, et après ça, la sociologie en a davantage concernant ce que l'on m'a expliqué. Mais aussi, ce qui est intéressant aussi, l'épigénétique, c'est qu'à un moment donné, les comportements peuvent avoir une incidence sur la biologie. Aussi, ça, c'est intéressant quand on ouvre cette option-là. Mais voilà, moi, je suis partie de je parlais de toutes sortes de questionnements. Comment se fait-il que nos garçons décrochent davantage que les filles? Comment je fais pour accompagner mon garçon dans son parcours scolaire? Pas pour nécessairement qu'il fasse un doctorat, un PhD, mais qu'il aille au maximum de ses compétences à lui. Comment l'école peut-elle être davantage, accompagner davantage nos garçons? Et ça, au-delà des malaises des genres, de la question du genre, il y a vraiment une question sociale. Nos garçons décrochent davantage, et même dès l'entrée au CPE, à la petite enfance, dans les réseaux de la petite enfance, on remarque que les garçons arrivent avec deux fois plus de vulnérabilité que les petites filles. Ça veut dire quoi, vulnérabilité? Ouais. Ça veut dire plus de difficultés de langage, motricité fine, etc. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y remédier, mais juste en être conscient. Ouais. Et ça, c'est la science qui dit, une enquête de l'Institut de la statistique du Québec auprès de 65 000 enfants, donc on s'entend qu'on n'est pas dans les dogmes ici. C'est important de le nommer puis de se questionner pour que autant les garçons, autant que les filles puissent bien se développer. Et moi, je suis une féministe vraiment très affichée, très affirmée, et je suis persuadée que plus les femmes vont se sentir bien, plus les hommes vont être bien, plus les hommes vont être bien, plus les femmes vont être bien. On est fait pour travailler en collaboration. Tout à l'heure, vous parliez de coparentalité. Les hommes et les femmes, on forme une équipe extraordinaire, puis cessons de nous regarder en ennemis, mais travaillons davantage ensemble. C'est un peu ça, ma série, en fait.
Ah, super. Justement, est-ce que tu as remarqué dans ta démarche là, la présence des pères, justement, qu'on essaie d'augmenter auprès des enfants? Est-ce que ça semble que ça semble aller dans le bon sens ou c'est encore difficile d'emmener les pères?
En fait, de ce que moi, je constate de mon environnement et dans ma propre vie, nous, c'est 50-50. Moi, je vais reconduire Léon le matin, son papa va le chercher. Et les parents que je croise au CPE, c'est 50-50, papa, 50% maman. Mm-hmm. Et les hommes que je côtoie, et évidemment, c'est pas scientifique, là, c'est mon environnement à moi, les familles que je côtoie, les papas sont très, très, très présents. Mm-hmm. C'est vraiment une coparentalité. C'est des équipes avec partage des tâches différentes. Moi, je suis toujours étonnée de voir à quel point on est quand même dans les stéréotypes, moi qui me dis très féministe. Mais mon chum, c'est les poubelles qui sortent, puis moi, c'est le lavage. On est dans... Il y a des intérêts ou des choses qu'on aime plus faire, puis bon, ça veut pas dire qu'un est meilleur que l'autre. Ouais, mais je trouve ça très beau, moi, ce qui se passe sur le plan de la parentalité.
Mais on parlait un petit peu du monde scolaire. En tout cas, ce que j'ai cru comprendre dans les différents propos qui étaient dans ton docu audio, c'est que il y a quand même l'école n'est pas tout à fait adaptée pour l'instant aux garçons. Quand on regarde, là, justement, quand tu disais dans les CPE, on n'essaie pas de la chamaille, est difficile à laisser aller là, les différents comportements plus physiques là, des gars.
Mais la réflexion se fait. La réflexion commence. On n'arrive pas avec une réponse toute faite, mais il y a quand même une réflexion qui se fait. Ça, je pense que ça s'explique de deux façons, que peut-être les comportements plus physiques, on est plus mal à l'aise dans les CPE, les écoles primaires. Mon frère, qui est éducateur spécialisé dans une école primaire, j'ai passé une journée avec lui, puis il est le seul homme dans une école de 600 avec le directeur d'école et le concierge. Mm-hmm. C'est important aussi que nos hommes aient nos garçons aient des modèles. Égide Royer, qui est une sommité en matière d'enseignement au Québec, il disait un homme qui est devant une classe, qui va lire de la poésie, il n'y a pas besoin de dire grand-chose pour que le petit garçon comprenne que lire de la poésie, ça peut être accessible aux garçons, puis c'est très beau aussi de la part des garçons. En ce sens-là, c'est pas que les femmes sont pas des bonnes enseignantes, loin de là, mais c'est de la possibilité d'offrir un modèle. Et ça, les garçons en ont pas beaucoup dans les écoles. CPE, de mon garçon, il y a un éducateur. Alors, je pense que d'augmenter la représentation des hommes dans les écoles ne serait pas contre-productif, bien au contraire.
J'entendais, je me souviens pas lequel intervenant, mais qui disait que c'est sûr que chacun, on a déjà les hommes sont peut-être moins maternants, moins à prendre soin des autres, une chose qui se retrouve beaucoup dans le métier en fait d'enseignant, ou que ce soit aussi dans les services sociaux et tout ça. Donc il y a peut-être cet aspect-là aussi qui fait qu'on n'a pas, il y a moins d'hommes présents là, dans ces milieux-là.
Peut-être, ce serait intéressant de faire une étude aussi, la question du salarial aussi. Hein? Oui, on va faire le pont avec l'équité salariale qui est importante de nommer aussi les salaires. En CPE, je veux dire, une éducatrice en CPE gagne moins quand elle commence qu'un caissier-caissière à la SAQ. Ah ouais. Donc, il y a une question sans doute salariale qui explique ceci, mais minimalement, est-ce qu'on peut avoir les questions? Pourquoi les réponses? Pourquoi les hommes investissent moins les milieux d'éducation? Ça serait intéressant. On peut commencer la réflexion sociale à ce moment-là.
Bien, super. Pour les gens qui aimeraient justement l'écouter, ton documentaire audio, il est disponible de quelle façon?
Il est disponible sur le site de Radio-Canada, les podcasts. J'ai pas l'adresse sous les yeux, mais c'est assez facile. Vous écrivez « Élever mon garçon », puis vous allez tomber sur cette magnifique... Je me prête, je dis magnifique. Enfin, je l'aime, je trouve que...
Oui, oui.
De trois épisodes.
Bien, c'est super. En tout cas, c'est bien fait. Moi aussi, j'ai, comme je te disais avant d'entrer en onde, j'ai pas eu le temps de tout le parcourir, mais en tout cas, les deux heures que j'ai écoutées, je trouvais ça bien intéressant. Puis effectivement, le format audio nous permet, comme tu disais, d'écouter dans la radio, de faire autre chose en même temps. Donc, c'est ça facilite peut-être justement là, l'écoute de ce beau reportage-là. En tout cas, merci à toi d'avoir fait cette démarche-là et puis on souhaite que ça continue bien au niveau de l'éducation de ton garçon. Puis que, c'est sûr qu'en même temps, on n'a pas le contrôle sur tout. Hein, on laisse aller les choses. Oui,
la parentalité, c'est ça. Hein, apprendre à lâcher prise un peu.
Ben, merci beaucoup, Mme Marceau. Puis on se revoit peut-être pour d'autres reportages. Si vous faites quelque chose encore qui est en lien avec la masculinité, ça me fera plaisir de vous recevoir.
Merci beaucoup de l'invitation.
Au revoir.
Au revoir.